Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Nicolas Voller et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans le nouveau Buzz TV de TV Mag, diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va Damien ?
On est partout,
en pleine forme.
Super.
On reçoit aujourd'hui sur ce plateau un journaliste militant que vous connaissez bien pour son engagement dans la défense de l'environnement. Mais cette fois-ci, c'est dans un tout autre registre qu'il s'apprête à s'illustrer, toujours sur le service public. Bonjour Hugo Clément.
Bonjour.
Ravi d'être avec vous. Nos grandes décisions, c'est le titre du magazine que vous présenterez. Ce sera sur France 2, 22h45. Ce sera en deuxième partie de soirée, une émission dans laquelle vous allez recevoir des hommes, des femmes qui sont confrontés à un dilemme. Et grâce à des experts en plateau, ils vont pouvoir évidemment mûrir le choix, cette fameuse décision. La spécificité de cette émission, c'est qu'elle est aussi en direct. Pourquoi ce choix du direct est toujours risqué? Puis après tout, il n'y a plus beaucoup d'émissions qui sont en direct.
C'est vrai, il n'y a plus beaucoup d'émissions en direct, raison de plus pour en faire une en direct.
Bien sûr.
Non, parce que moi j'aime beaucoup le direct. Déjà en tant que téléspectateur, je trouve que c'est assez agréable de vivre quelque chose en même temps que les gens qui sont sur le plateau. Ça crée une sorte de communion. Et puis surtout pour nous, ça a un gros intérêt, c'est qu'on fait participer les Françaises et les Français qui nous regardent en direct.
Absolument,
à la décision,
oui, oui, par SMS
des gens sur le plateau,
notamment.
Puisque les téléspectateurs peuvent voter par SMS tout au long de l'émission pour dire ce qu'ils feraient à la place de la personne concernée. Et donc ça, évidemment, on ne peut le faire qu'en direct. Donc c'est une dimension importante de cette émission.
Ça vous angoisse le direct ou pas?
Oui.
C'est un truc que bon, vous en avez fait longtemps, notamment avec Quotidien ou d'autres émissions.
Je dirais pas que ça m'angoisse parce que j'en ai fait pas mal quand même pendant plusieurs années.
Vous
j'ai commencé
bien,
à France 2 au tout début. Je travaillais pour le JT, donc j'ai quand même fait pas mal de directs. Mais c'est sûr que ça crée une petite excitation, un petit trac,
une tension
qui est assez positif, je pense, pour être concentré. C'est sûr qu'il y a un sel particulier à être en direct et c'est pour ça que j'aime ça aussi.
Mais ce qui est rare surtout, c'est qu'une émission soit diffusée en direct en deuxième partie de soirée. Pour quelle raison n'avez-vous pas les honneurs du prime time? C'était impossible, inenvisageable pour vous.
Parce que c'est la case historique des grandes émissions de société sur France 2.
Ah, c'est pour ça.
Bien, rappelez-vous, ça se discute. C'était le mercredi soir en deuxième partie de soirée, donc c'est
exactement
un peu une case mythique de ces grandes émissions de société, et on est très très heureux de la reprendre.
Et on va en parler évidemment dans un instant de nos grandes décisions, vous allez pouvoir les prendre avec nous, ce sera sur Figaro Live évidemment en direct, ce sera après News Media de Damien Canivez. On commence les News Media, Damien, avec une nouvelle prise de position polémique de Pascal Praud.
Oui, le présentateur de CNews a signé ce week-end dans le journal du dimanche un édito consacré à la crise des agriculteurs. Alors ces derniers ont manifesté, on le rappelle, la semaine dernière contre des normes européennes jugées trop contraignantes, ils réclamaient aussi une simplification des contraintes administratives et une augmentation de leurs revenus. Alors dans le texte publié chez nos confrères, Pascal Praud prend leur défense et critique la théorie de Marine Tondelier, secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts, selon laquelle, je la cite, on ne sauvera pas le climat sans les agriculteurs. Alors le journaliste dans les colonnes du JDD lui répond, cette phrase est folle, la France n'a pas vocation à sauver le climat en a vu d'autres, fin de citation. Alors face à cette sortie, de nombreux internautes ont accusé Pascal Praud d'être climato-sceptique.
Vous tournez de votre chaise quand vous entendez ça, vous qui êtes très engagé dans la défense de l'environnement ou pas?
Bon, on entend beaucoup de bêtises ces derniers temps. Après, il n'a pas tort sur le fait qu'on ne sauvera pas le climat. C'est comme dire sauver la planète. On ne va pas sauver la planète. La planète, elle était là avant, elle sera là après. Elle n'a pas besoin d'être sauvée. Le climat, effectivement, nous en France, tout seul, on ne sauvera pas le climat. C'est peut-être un peu prétentieux de penser ça.
Vous êtes d'accord avec Pascal Praud?
Non, mais
c'est bien.
Cela dit, la deuxième partie de la phrase, quand il dit le climat, on a vu d'autres, sous-entendu, c'est pas très grave ce qui se passe. Là, pour le coup, il faut écouter ce que disent les scientifiques. Et tous les scientifiques nous expliquent que la rapidité, la gravité du changement climatique sont sans précédent dans l'histoire de la Terre.
Bien sûr.
Et que ce changement climatique-là va avoir des impacts gravissimes, et a déjà des impacts gravissimes. Parlez-en aux habitants du Nord-Pas-de-Calais, ou les gens qui sont victimes des incendies ou de la sécheresse, autour de Perpignan ou vers Barcelone. En ce moment, il y a des millions de personnes qui sont privées d'eau parce qu'il y a un état d'urgence lié à la sécheresse.
Des restrictions
terribles. Voilà, c'est une réalité. Et les agriculteurs, puisqu'il est question de ça, sont les premiers concernés et savent très bien, il n'y a pas de climato-sceptique chez les agriculteurs. Ouais. Tout le monde dans l'agriculture sait ce qui se passe et voit très bien ce qui est en train de se passer au niveau des terres, au niveau des dates de floraison, etc. Et
qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs de leur manifestation? Les agriculteurs, on sait que vous les aimez bien, en même temps vous êtes assez dur quand il s'agit des éleveurs, vous avez dénoncé.
Non, mais déjà, les agriculteurs, ça ne veut rien dire. C'est comme dire les journalistes ou les policiers.
Il y a beaucoup de
formes. On aime bien en France, on aime bien en France, les journalistes aiment bien en France mettre les gens dans des cases. Donc c'est les agriculteurs, les journalistes, les policiers. Les agriculteurs, il y a 1000 manières différentes de faire de l'agriculture, il y a 1000 modes de production différents, ouais. et tous les agriculteurs n'ont pas la même vision de leur métier, et d'ailleurs tous les syndicats agricoles ne sont pas d'accord entre eux sur ce qu'il faut défendre
ou
pas.
La même éthique, vous voulez dire,
voilà.
du métier.
Donc, je sais pas si c'est la même éthique, en tout cas, n'ont pas la même vision du métier. Entre ce que dit la Confédération paysanne sur les pesticides et ce que dit la FNSEA, vous avez deux discours qui sont diamétralement opposés. Mmh. Et c'est pas si étonnant que ça. Vous pouvez prendre n'importe quel corps de métier, tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de faire le métier. Donc, les agriculteurs, ça veut rien dire. Ce qui est évident, c'est que les agriculteurs aujourd'hui, de manière générale, sont dans une situation en moyenne de précarité qui est liée à la pression sur les prix, qui est liée à un déséquilibre dans le rapport de force qu'ils ont avec la grande distribution, avec l'agroalimentaire, qui eux se gavent sur les marges. Quand vous regardez la progression des marges ces dernières années de la grande distribution et de l'agroalimentaire, ils se portent très bien. À l'inverse, les marges que se font les paysans sur leurs produits se portent très mal. Donc il y a un vrai problème dans le système. Après, est-ce que la réponse c'est de laisser utiliser plus de pesticides qui donnent des cancers, qui contaminent nos eaux, qui contaminent nos produits agricoles qu'on mange. Je pense que c'est pas la bonne solution. Et d'ailleurs, beaucoup d'agriculteurs estiment que c'est pas du tout la réponse à apporter à la crise.
Absolument. On continue ces news médias, Damien, avec Danse avec les stars. On connaît le nom du partenaire de Christina Cordula. Ça,
oui.
ça vous titille.
Exactement.
Hein, vous aviez envie de savoir.
Oui. Ce n'est pas vous, Nicolas. Ne soyez pas déçus. TF1 lancera la 13e saison, on le rappelle, de son célèbre concours de chorégraphie. Ce sera le 16 février prochain, en première partie de soirée. Et dimanche, effectivement, la chaîne a officialiser l'identité de celui qui partagera quelques tangos et autres rumba avec Christina Cordula, et il s'agit de Jordan Mouirac, qui fait partie des danseurs professionnels de l'émission depuis 2017.
Sosie officielle de Olivier Giroud, d'ailleurs. Alors, admettons, vous n'êtes pas sur France Télé, vous ne travaillez pas sur France 2, est-ce que vous pourriez participer à Danse avec les stars? Si on vous invitait, Hugo,
je pense qu'il vaut mieux épargner ça aux téléspectateurs.
Ah, sérieux,
oui, je suis un danseur absolument cataclysmique. Donc, non, je danse.
Mais il y a des gens
mal.
Qui dansent pas très bien.
Ouais, non, mais moi, vraiment, on part de très loin. Bon. Donc, je pense que beaucoup de gens après, ils seraient affligés du spectacle.
On continue, Damien, et on termine avec le chiffre du jour, c'est 2,9 aujourd'hui.
Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant la nouvelle série de TF1, ça s'intitule La Tribu, portée par Jonathan Zakaï et Alix Poisson. Cela représente 17,4% de part d'audience. C'est pas un lancement au sommet, on va dire. Hein. C'est assez moyen, donc on verra si ça se poursuit au cours des prochaines semaines.
Est-ce qu'il y a la même pression à chaque fois que vous faites une émission sur le service public qu'il peut y avoir sur une chaîne privée? Vous avez connu un petit peu les deux, Hugo. Est-ce que vous regardez tous les matins à 9h, évidemment, les audiences qu'a fait Sur le Front, j'imagine?
Ah oui, bien sûr.
C'est important, il y a des vrais objectifs, ou est-ce que, voilà, on peut être...
Oui, c'est important, parce que surtout sur le service public, j'ai envie de vous dire, on fait les émissions pour que des gens les regardent. De dire on s'en fout des audiences, c'est pas important, moi je pense que ça pose un peu problème, parce qu'on fait pas les émissions pour se faire plaisir, on fait des émissions pour que le plus de monde possible les regarde,
France Télé,
et que ça informe les gens. Et sur le service public, on est financé par tous les Français et toutes les Françaises, et donc on a peut-être même encore plus de responsabilités.
Surtout dans vos diffusions, il n'y a pas de publicité après.
Voilà,
après
à s'adresser
20h,
à tout le monde. Donc oui, c'est important. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession, et il ne faut pas non plus que ça devienne un critère de choix de savoir ce qu'on met ou pas dans une émission. Quand vous commencez à réfléchir en fonction de l'audience, à dire « je vais traiter ce sujet parce que je pense que ça va faire de l'audience » ou « je ne vais pas traiter ce sujet parce que je pense que ça ne va pas marcher », là, ça pose un problème, parce que ça ne doit pas être le critère de choix numéro un, clairement. Ça doit être un sujet, on doit regarder, on doit voir comment on peut s'adresser au plus grand nombre, mais il ne faut pas non plus que ça nous parasite la tête et que ça nous empêche de faire des sujets qu'on estime intéressants et qui sont importants parce que, soi-disant, ça ne marcherait pas en audience. Et d'ailleurs, on voit bien que quand on fait des émissions qui arrivent à être pédagogiques, à parler au grand public, on peut traiter des sujets, y compris des sujets qui peuvent paraître au premier abord pas très rentables en termes d'audience. Ouais. Je le vois avec Sur le Front, faire une émission en prime time sur l'environnement, où parfois il y a quand même des mots. Souvent, il y a quand même des mauvaises nouvelles. On fait des émissions qui sont très exigeantes.
Plus ou moins
concernant, voilà, on a fait une émission sur les exportations agricoles. Ouais. Bon, sur le papier,
mais c'est pas sexy, quoi.
Il
n'y
a pas un producteur
agricoles.
Télé qui va se dire ah super,
oui,
génial, on va
forêts,
faire un carton.
Ce genre de choses.
Bon, bah, il se trouve qu'on fait des super scores d'audience avec des sujets très exigeants et très compliqués. Donc c'est possible de marier les deux.
Hugo Clément, les téléspectateurs ont l'habitude. Hein,
je vois qu'ils toussent, donc je m'inquiète parce que là.
Damien,
je vais vous dire un truc. La dernière fois, je vais vous faire une petite confidence. La dernière fois que je suis venu dans cette émission, c'était début 2020.
2020. Ouais. Figurez-vous, juste avant le confinement.
Juste avant le confinement.
Je suis venu dans cette émission avec Damien et je trouve qu'il toussait pas mal pendant l'interview. Ouais. Je suis reparti chez moi, trois jours après, j'avais le Covid. Donc, ce monsieur m'a refilé le Covid dans cette émission.
Hugo, ne vous inquiétez pas, c'est une grippe.
Voilà, c'est que la grippe.
Ça va, tout va bien.
Ça tombe bien, j'ai une émission en direct demain soir, pas de soucis.
Bon, Damien, vous posez vos questions vers l'arrière, hein, s'il vous plaît.
Ce sera pas de problème.
Je l'ai dit, hein, Hugo, les téléspectateurs ont surtout l'habitude de voir dans une émission qui repose sur l'écologie. Là, vous arrivez dans un autre registre, ouais. Effectivement. Vous ne mettez pas la protection de l'environnement entre parenthèses, on est d'accord.
Ah bah non, sur le front, ça continue tous les mois sur France 5. Ouais. Mes chroniques sur France Inter, ça continue toutes les semaines. Non, bien sûr, c'est en plus.
Alors comment il est né ce magazine et cette idée de mettre les décisions des gens au cœur des sujets sociétaux et de l'appliquer à des cas particuliers comme ça? C'était votre idée?
Alors, c'est une idée de Thierry Ardisson. C'est un concept qu'il a imaginé il y a plus de 15 ans maintenant, qu'il a écrit il y a plus de 15 ans.
Co-produisait avec Ardimage. Hein,
exactement, qui est le co-producteur de l'émission. Et c'est Thierry qui est venu nous voir, Régis Lamanaroda, donc mon producteur et moi, pour nous proposer cette émission en nous expliquant le concept. Et on a tout de suite été vachement séduits par la mécanique que je trouve très intéressante, qui permet de parler de sujets de fond avec une mécanique rythmée. Et voilà, et ça s'est fait comme ça en fait. Hein. C'est Thierry qui est venu nous proposer ça. Et on est ensuite allé voir tous les trois France Télévisions en remaniant un peu le concept, en adaptant tout ça à l'époque. Et France Télévisions nous a fait confiance et on est très heureux.
Et quelle place il occupe dans les coulisses, Thierry Ardisson? On sait que c'est quelqu'un de très exigeant. Il sera dans votre oreille, par exemple, demain?
Alors, il ne sera pas dans l'oreillette. C'est Régis qui est dans l'oreillette, Régis Lamanaroda. Mais il est très présent, Thierry. Avant d'être un animateur, c'est un homme de concept. Ouais. Thierry Ardisson, c'est un créatif. C'est quelqu'un qui a mille idées à la seconde.
On l'a vu avec l'Hôtel du Temps, par exemple.
Et il a toujours son œil de gamin.
Il a inventé beaucoup de choses à la télé.
Il a une idée toutes les minutes. Quoi. Il invente quelque chose. Et donc, c'est génial de travailler avec lui parce qu'il vous apporte à la fois son expérience d'homme de télé, mais surtout, j'ai envie de dire, son talent créatif. Et il a toujours des bonnes idées qui permettent d'avancer. Et en même temps, il ne vous écrase pas non plus en disant, écoutez, voilà, moi je vous dis comment ça se passe, ça marche comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'a pas cette approche qu'il pourrait avoir en étant une légende de la télé comme il l'est. Il pourrait avoir cet égo-là. Ce n'est pas du tout le cas. Il est très modeste, il s'intéresse beaucoup à vous et à ce que vous faites et à ce que vous pensez. Il est beaucoup dans l'échange et donc c'est vraiment un bonheur de travailler avec lui.
Si
on m'avait dit un jour que Thierry Ardisson viendrait me voir en me disant j'aimerais que tu présentes l'émission que j'ai inventée, franchement je l'aurais pas cru.
Vous auriez pensé.
Non.
Alors, pour revenir à nos grandes décisions, les hommes et les femmes qu'on va voir sur ce plateau, dans ce magazine de société, qui sont-ils, Hugo, et comment vous les avez choisis en fait?
Ça peut être n'importe qui, ça peut être vous, ça peut être n'importe quelle Française et n'importe quel Français qui, comme nous toutes et nous tous, se pose une question, a une grande décision à prendre dans sa vie et ne sait pas quoi faire. Et face à un dilemme, ça peut être une question professionnelle, ça peut être une question d'ordre privé, mais qui a une résonance sociétale, parce que notre critère, évidemment, on ne va pas poser n'importe quelle question, notre critère,
c'est que ça ait sa famille, sa santé,
voilà,
son
travail. Qu'il y a une résonance sociétale aux thématiques qu'on va aborder. Et donc, que le cas particulier qu'on a sur le plateau dise quelque chose de la société dans laquelle on vit, et qu'à travers ce cas particulier qu'on va conseiller, qu'on va essayer de guider dans sa décision pour lui apporter le plus d'éclairage possible, on apporte aussi des informations au grand public sur les thèmes qu'on va traiter.
Et qui sont les experts qui seront en plateau face à ces anonymes que vous recevrez en direct? Est-ce que ce sont systématiquement trois experts, par exemple,
et quatre experts.
Ouais,
à chaque cas, il y a quatre experts. Ouais, c'est soit des spécialistes de la thématique. Oui. Donc, par exemple, demain pour la première, on aura une infirmière qui hésite à démissionner. Ça sera la première grande décision confrontée aux difficultés de l'hôpital public. Il y aura notamment des médecins dans le panel d'experts pour la conseiller, mais il y aura aussi des personnalités connus des Français, qui ont un lien avec ce sujet et qui ont une légitimité pour conseiller la personne sur cette question-là. Donc ça sera un mélange d'experts, d'anonymes aussi qui ont déjà traversé la même situation et qui feront un retour d'expérience, et de personnalités.
Mais alors, comment vous allez les aider concrètement à prendre cette décision? Quel type de moyens vous allez mettre en œuvre pour essayer de les guider, j'allais dire, au mieux là-dessus? C'est évidemment que chaque cas est particulier, hein, puisque
vous
parlez de la défense de l'hôpital public, effectivement, mais il y a des infirmières qui ne sont pas dans le même cas que d'autres.
Bien sûr, chaque cas est particulier. On adaptera chaque émission au cas particulier qu'on aura. Mais,
donc, de quelle façon, concrètement?
De quelle façon? C'est très simple. Vous allez voir la disposition du plateau. Il y aura un fauteuil au centre qui sera pour la personne qui vient vient prendre sa grande décision. En face, vous aurez les quatre fauteuils des experts. Et les experts conseilleront directement la personne qui sera là. Alors moi, j'aurai le rôle d'organisateur des échanges pour faire en sorte que l'émission avance. J'aurai aussi des modules, des chiffres, des images à montrer pour faire réagir à la fois les experts et la personne. Et puis, un autre élément qui est très important, c'est le vote du public. Le vote des Françaises et des Français, c'est pas le public qui est dans les gradins, hein, c'est les gens qui sont chez eux, avec leur téléphone, par SMS, ils pourront voter pour dire ce qu'ils feraient, eux, à la place de la personne qui doit prendre sa grande décision. Et ça permettra non seulement d'apporter un élément de plus pour la personne qui ne sait pas quoi faire, mais aussi de prendre un peu le pouls de la société sur les sujets de société qu'on va traiter.
Mais est-ce que ces hommes et ces femmes s'engagent à prendre une décision en direct à la suite ces échanges ?
Oui, ils doivent prendre leur décision.
Par exemple, il y a quelqu'un qui doit faire une vasectomie, qui se demande s'il doit faire une vasectomie demain.
Non, on l'a fait en direct sur le plateau.
Si les Français votent oui, il est obligé.
Le vote est purement consultatif. Il n'y a pas de contrat qui est signé. La personne n'est pas obligée de suivre l'avis du public, bien sûr.
Mais la décision doit être prise, malgré
tout. Mais la décision est prise sur le plateau. Après, il arrivera certainement parfois que dans les semaines qui suivent l'émission, les gens changent d'avis. Ça arrive aussi. Il n'y a pas de contrat qui est signé pour que la personne soit obligée de suivre telle ou telle décision. On n'est pas du tout là pour mettre les gens dans une situation de stress. Au contraire, c'est une émission qui est dans la bienveillance et qui est là pour aider les gens, pour conseiller les gens et les aider à y voir plus clair sur un sujet où ils sont perdus. Donc on ne va pas les mettre dans une pressurisation en leur disant il faut faire ça, signer ici. Ce n'est pas du tout l'idée. On est sur le service public, on est là pour accompagner et on est là pour informer le grand public sur des thèmes qui parfois sont très compliqués.
Mais vous allez continuer à les suivre, pardon Nicolas, vous allez continuer à les suivre, après il y a un suivi qui est organisé.
Il y aura un suivi, alors pas de tous, hein, parce qu'on aura trois grandes décisions par émission et ça sera toutes les semaines, donc on ne pourra pas suivre tout, mais on suivra les personnes qui nous ont le plus marqué, les décisions les plus emblématiques, bien sûr, pour avoir un suivi et savoir ce qu'ils sont devenus ensuite.
Vous-même, ça vous est déjà arrivé de faire face comme ça à un dilemme dans votre vie, Hugo ?
Plein de fois. Tous les jours. Ouais. Enfin, non, mais je veux dire, ça arrive très souvent d'avoir des décisions à prendre qui peuvent avoir un impact important sur votre vie. Quand j'ai décidé avec ma compagne Alexandra de quitter Paris pour aller vivre au Pays Basque, c'était une décision. On a pesé le pour et le contre, on a demandé conseil et j'aurais sans doute apprécié avoir des conseils de spécialistes, d'experts qui auraient pu m'apporter des éléments. On n'a pas trop hésité, pour être honnête sur celle-là. Soyons honnêtes, on n'a pas trop hésité sur
celle-là. Le Pays Basque, je vous comprends.
Voilà, mais oui, ça fait partie des grandes décisions que j'ai prises dernièrement, ou quand j'ai quitté le JT de France 2, où j'avais commencé à l'époque en tant que reporter pour aller dans une petite émission d'infotainment qui s'appelait à l'époque Le Petit Journal, et où tous mes collègues m'ont regardé avec des gros yeux en me disant mais qu'est-ce que tu fais, quoi, pourquoi tu quittes le journal télévisé de France 2 pour aller au Petit Journal faire de l'infotainment, où à l'époque c'était beaucoup moins accepté qu'aujourd'hui, on va dire. Ça aussi c'était une grande décision.
Il y en a une que vous regrettez ou sur laquelle vous pourriez revenir?
Une grande décision que je regrette, je crois pas. Je regrette plein de petites décisions, mais une grande décision...
Sur laquelle vous pourriez revenir, non.
Une grande décision qui a eu un impact important sur ma vie, j'en regrette aucune. Après, il y a plein de petits choix que j'aurais fait différemment, des choses que j'aurais pas dites, des choses que j'aurais pas décidées, mais qui n'ont pas eu un impact majeur, quoi.
Alors, il y a une décision que vous avez prise.
Et après, j'ai envie de vous dire, les mauvaises décisions sont parfois une étape importante dans la construction de votre vie. Parfois, vous faites des mauvais choix, vous échouez, vous vous plantez.
De la construction.
Et c'est grâce peut-être à cette mauvaise décision qu'ensuite vous en prendrez des meilleures.
Des bonnes.
Alors justement, une décision, il y en a eu une de votre côté. C'était en avril dernier, vous avez participé à un débat organisé par le magazine Valeurs Actuelles.
C'est une grande décision.
C'est une grande décision, mais on vous a demandé. Ouais. Vous avez sans doute posé le pour et le contre. Et vous avez
j'ai dit oui tout de suite, moi.
Ah, vous avez dit oui.
Moi j'ai dit oui tout de suite.
Vous aviez échangé à l'époque avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, et vous avait été très critiqué pour avoir participé à ce débat. Donc ce choix-là, vous ne le regrettez pas, par exemple?
Mais vous en pensez quoi, vous?
Moi, je pense que c'est une excellente idée. On doit pouvoir débattre avec tout le monde. Et
Il y a beaucoup de gens ont mal interprété vos propos sur l'immigration, ce qui a provoqué effectivement un débat.
En fait, les gens qui ont mal interprété ça sont des gens qui n'ont pas regardé le débat. C'est un peu la mode. On aime bien commenter des choses qu'on n'a pas vues. Mais ce que j'expliquais pendant le débat face à Jordan Bardella, c'est que le changement climatique allait avoir notamment une conséquence,
les vagues migratoires,
l'augmentation de vagues migratoire, puisqu'on allait avoir des gens qui vont se retrouver dans des pays qui vont devenir inhabitables, et ils ne vont pas rester là à cuire sur place, ils vont bouger. Et ça, c'est tous les spécialistes des migrations le disent, le changement climatique va être factuel. Probablement
on le, sait.
Le premier ou un des premiers facteurs de migration. Donc, ça, c'est factuel. Donc, prétendre s'intéresser à l'immigration et prendre en compte l'immigration sans parler d'écologie, ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui, puisque le facteur écologique va être un des premiers facteurs de migration. C'est ça que j'expliquais à Jordan Bardella, enfin, c'est de ça dont on débattait. Certains ont vu ça comme un soutien aux propos du Rassemblement National, ce qui est complètement, complètement aberrant, évidemment. C'est pas du tout ce que j'ai expliqué, mais c'est des gens qui n'ont pas regardé le débat, parce que tous les gens qui ont regardé le débat ont bien vu que c'était un propos de fond.
Oui, simplement, vous estimez qu'on peut débattre avec tout le monde, et ça, c'est tout...
Non, mais moi, je trouve ça formidable qu'on ait un débat pour savoir si on peut débattre avec tout le monde. Parce que si l'idée, c'est de débattre qu'avec les gens avec qui on est déjà d'accord,
mais c'est souvent
on va vite se faire chier quand même. Je veux dire, dans un dîner, si vous parlez qu'avec les gens qui pensent comme vous et vous ne parlez pas à tous les autres, c'est pas très marrant. Et ça ne permet pas d'avancer. Et sur l'environnement, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de mortifère, c'est que on en parle de manière uniquement partisane. Donc il faut être forcément de tel parti pour avoir telle position sur l'environnement, etc.
L'écologie ne devrait pas avoir d'étiquette politique
alors
après tout.
Au contraire, c'est, à mon sens, on devrait mettre l'écologie au-dessus des clivages partisans et être capable de parler avec tout le monde. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a plus de 10 millions de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2022.
Oui.
Donc soit on se cache les yeux, on se bouche les oreilles, on fait comme si ces gens n'existaient pas et on se dit qu'on ne parle surtout pas d'écologie avec un pourcentage très important des Françaises et des Français, soit on parle d'écologie avec tout le monde, au-delà des opinions politiques, et on essaye d'avancer tous ensemble. Et je pense qu'on arrivera à avancer uniquement si on arrive à mettre ce sujet au-dessus des clivages partisans et si on comprend que c'est un sujet d'intérêt national, en fait. Voilà.
On va bientôt arriver au bout de l'émission. Juste un petit mot sur le front, Hugo, ça va revenir prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres... vous pouvez nous annoncer quelques sujets des prochains sur le front?
Alors, le prochain, qui sera annoncé très très bientôt sur France 5, ce sera la face cachée des forêts françaises. Voilà, une grande enquête sur...
Vous aviez déjà fait les forêts.
On avait déjà fait un épisode sur les forêts, effectivement, il y a 3 ans. Et là, on fait la suite de cette enquête avec des grosses révélations sur la manière dont on traite nos arbres. Et je ne peux pas vous en dire plus, mais vraiment, il va y avoir des surprises dans cette enquête.
Voilà. Et sur France Télévisions, est-ce que vous ferez partie du dispositif qui sera déployé à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris?
C'est pas prévu.
C'est pas prévu pour
non,
le moment.
J'en sais rien. Peut-être, on aura peut-être des surprises. Non, c'est pas prévu.
Pour
non,
le moment.
Non. On a déjà, il y a sur le front, il y a nos grandes décisions maintenant qui vont être toutes les semaines, le mercredi soir sur France 2. Il faut se concentrer et réussir les projets qui sont lancés. On verra pour la suite, mais c'est pas prévu pour l'instant.
JO écolo, ça peut rimer ou pas? Parce qu'on a l'impression quand il y a les Jeux Olympiques qu'on est dans la démesure absolue
Événement d'ampleur. Qui fait venir des milliers, des dizaines de milliers de personnes à un endroit, a un impact environnemental. Je suis bien placé pour le savoir parce que ça n'a rien à voir avec les JO, évidemment, en termes d'ampleur, mais j'organise des festivals de musique où on fait venir beaucoup de gens au même endroit, donc il y a un impact environnemental. Il faut essayer de faire en sorte qu'il soit le plus réduit possible, et il y a certainement plein de choses à améliorer pour qu'il soit le plus réduit possible, mais je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on ne devrait pas faire de JO parce qu'on a aussi besoin d'avoir des grands moments d'union populaires, qui réunissent les gens, qui leur apportent du bonheur. Voilà, les JO, ça apporte du bonheur aux gens. Et il n'y a pas beaucoup d'espace où des gens du monde entier se retrouvent autour du sport, autour d'un moment commun. Et je pense que c'est important d'avoir aussi ces moments-là. Donc, évidemment que ça a un impact. Il faut tout faire pour le réduire. Mais je pense que c'est quand même des moments importants.
Merci Hugo. On passe à notre dernière rubrique, au suivant. Ce lundi, nous recevions sur le plateau le journaliste Thomas Mizraki. Il avait une question à vous poser, Hugo Clément. Je vous invite à l'écouter immédiatement et vous y répondez juste après.
Moi, ma question, elle est toute simple. En matière d'écologie, comment rester optimiste avec tout ce qui se passe?
Ah oui, c'est vaste, hein.
Sacré question.
Comment rester optimiste?
Vous avez 2 heures.
Je pense qu'on reste optimiste.
Vous avez 40 secondes, un peu.
Ouais, je réponds vite.
Comment on peut être optimiste?
On reste optimiste en étant dans l'action. Je pense qu'on est optimiste quand on fait quelque chose, quand on met en lumière aussi les gens qui font des choses positives et qui ont des solutions. Mm-hmm. Tout de suite, ça vous met dans une logique d'action et d'optimisme. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans Sur le front, sur France 5, c'est qu'il y a toujours une partie enquête, mais il y a aussi toujours une partie où on montre des solutions, où on montre des ingénieurs, des scientifiques, des agriculteurs qui ont trouvé une solution à un problème et qui méritent d'être mis en lumière. Et en fait, on a besoin de plus parler de ces gens-là. Et c'est là-dedans qu'on va trouver notre optimisme. C'est important de ne pas fermer les yeux et d'avoir conscience de la gravité de la situation. Oui, le changement climatique est grave. Oui, l'effondrement de la biodiversité est peut-être même encore plus grave. Oui, c'est une énorme menace pour l'espèce humaine. Et en même temps, on a des solutions. On sait quel point on peut améliorer, on sait comment il faut faire, en tout cas vers quelle direction on doit aller. Et ça, ça doit nous donner de l'optimisme. Voilà, il faut qu'on y arrive tous ensemble.
Bon, on espère qu'il sera satisfait en tout cas de la réponse. Notre invité de demain, ce sera David Kamenos, le grand comédien qui sera à l'affiche de tout cela. Je te le donnerai, ce sera juste avant vous, hein. Ouais. Hugo, j'espère qu'il boostera un peu les audiences. Tu fais 4-5 millions, ce serait pas mal pour vous. Si vous avez une question à lui poser, David Kamenos vous écoute.
David, quelle est la prochaine grande décision que tu vas prendre dans ta vie?
Ah, oh, pas mal.
Pas mal. Ah, alors là.
Pour qui va-t-il tourner? Dans quelle fiction?
Ça nous ouvre un champ de réponses inattendues, on adore.
Absolument, très bien. On parlera pas de ces projets, on gardera la question de Hugo et puis du coup on en parlera. Merci en tout cas,
merci
Clément, d'avoir été avec
plaisir,
nous.
Merci à vous.
Je rappelle que vous présentez le nouveau magazine de société Nos Grandes Décisions. Ce sera à 22h45, juste après le téléfilm justement de France 3 et vous pourrez évidemment prendre
France
vos décisions.
France 2.
Et on est ravis d'ailleurs que cette case revienne, hein, ce grand magazine de société.
Ah bah,
vous
merci,
en avez parlé.
C'est sympa, j'espère que ça vous plaira.
Bonne journée Damien, soignez bien ce rhume.
Ce rhume.
Merci à toutes et à tous encore de votre fidélité.
Allez, je vais prendre un Doliprane.